Quel avenir pour l'Europe ? Un sujet débattu, assisterons.
Crise économique, afflux de migrants, Brexit et zone euro, les indicateurs ne sont pas au beau fixe en ce qui concerne l'Europe, d'où l'intérêt du débat organisé la semaine passée à Sisteron. Avec 500 millions d'individus, l'Europe représente la troisième population mondiale. Elle se compose de 28 pays pour 24 langues et langages officiels. Forte de sa puissance économique et sociale, l'Union européenne représente plus de 23% du produit intérieur brut mondial, un PIB supérieur à ceux des États-Unis, de la Chine et du Japon, mais seulement 18 nations européennes adhèrent à une monnaie unique. Par conséquent, l'Union européenne doit impérativement et au plus vite utiliser ses atouts pour tendre vers une citoyenneté européenne, préserver notre bien-vivre ensemble et contribuer au maintien de la paix. C'est justement le sens de la réunion qui s'est tenue à Sisteron. À cette occasion, le maire Daniel Spagnou et Bernard Ribault, ancien adjoint de Sisteron et président fondateur de la Société d'économie mixte, accueillaient Pierre-Bernard Raymond, ancien ministre, ancien sénateur et maire honoraire de Gap, spécialiste en la matière. Vous l'entendrez dans un instant. Mais avant, Bernard Ribault affirme son attachement à l'Europe, mais peut-être pas celle que l'on croit connaître. L'Union européenne face aux défis de demain. Interview Patrice Vernet.
Pour moi, le devenir de la France dépend du devenir de l'Europe et le devenir de mes enfants, petits-enfants, dépend du devenir de la France. Je ne vois pas comment demain on peut vivre, nous, en autarcie, hein, état par état. Pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est une conviction. Bien des problèmes ont été résolus par l'Union européenne. Rappelez-vous de la crise des subprimes, par exemple. S'il n'y avait pas eu l'Europe, où en serions-nous ? Est à l'ordre du jour actuellement à la Commission européenne l'Union énergétique de l'Europe. On s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait à l'aise. Hein, on a des fournisseurs qui peuvent être défaillants, il y a des problèmes de réseau, etc. Bon, et là encore, c'est l'Union énergétique de l'Europe qui peut permettre de pallier à tous ces problèmes. Si je pense les deux sujets, les subprimes et l'Union énergétique de l'Europe, aucun État seul peut répondre à ces questions. Donc, l'Union fait la force, on dit. C'est vrai.
Alors, on parle souvent de Bruxelles. Bruxelles ne prend pas de décision.
Alors, Bruxelles ne prend pas de décision. C'est pas l'outil qui ne prend pas de décision. Ce sont les États européens qui ne prennent pas de décision aussi. L'outil, il permet de prendre des décisions. Prenez le PNR. Je ne sais pas si tout le monde connaît le PNR, ce fameux document qui permettrait de suivre l'évolution des passagers sur tous les vols en Europe pour voir s'il n'y a pas là-dedans des gens qui se cachent. On en parle depuis 2011. Alors on dit, je lis, que ça va se traiter peut-être dans 4-5 jours. Il y a 2-3 pays qui disent « Ah, c'est liberticide, parce qu'il y a la liberté, tout le monde sait où je vais, etc. » D'autres disent « Ça coûte trop cher. Voilà. »
L'Europe a ses frontières grandes ouvertes. Est-ce qu'il faut travailler vis-à-vis de ça et peut-être à certains points, certains endroits, refermer ses frontières ?
Non. Il faut faire Frontex, il faut faire Schengen, mais ce n'est pas suffisant. Hein, parce que pour lutter contre le terrorisme, en fin de compte, c'est votre question, c'est le renseignement. Le renseignement, et non pas éparpillé, mais un renseignement qui sait totalement synchronisé entre tous les États. Chacun cache encore des choses. On voit à quelle vitesse ça évolue entre la Belgique et la France. Pourquoi ? Parce que depuis 3 mois, 4 mois, on se voit tous les jours.
L'Europe évolue ? Est-ce qu'elle évolue dans le bon sens ?
L'Europe de demain ne peut pas être l'Europe d'aujourd'hui. Les défis de demain sont passés d'hier. Et puis on est quand même à 28 et on voit bien qu'une forme de paralysie, c'est quand même le trop grand nombre d'États qui siègent autour de la table.
Oui, alors il faut d'abord savoir comment on veut la faire évoluer et pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile parce que le monde est confronté à des défis majeurs. Et ces défis arrivent tous en même temps. Nous avons d'abord l'explosion démographique mondiale, nous avons la mondialisation, nous avons le réchauffement climatique et nous avons la résurgence de conflits au Moyen-Orient entre les chiites et les sunnites, etc., etc. Donc on est devant un monde complètement bouleversé et à mon avis ce n'est pas une crise. Vous savez, une crise ça passe. Là c'est une véritable mutation qui va certainement durer plusieurs décennies. Et il faut savoir comment l'Europe se positionne à l'égard de cet environnement international. Alors je crois qu'aujourd'hui l'Europe n'a pas tous les outils qu'il faut pour être à la hauteur. Quel va être notre destin ? Ce n'est pas une crise, c'est certainement une mutation, comme je l'ai dit, c'est-à-dire une période de bouleversement, mais il y aura ensuite une période de stabilité. Mais personne ne sait aujourd'hui quelle place on occupera dans cette nouvelle stabilité. Est-ce que nous serons encore, quand je dis nous, c'est l'Europe, dominant, ou bien est-ce que on a commencé notre déclin? Est-ce qu'on est au début du bas-empire européen? Voilà la question centrale.
Beaucoup de gens, justement, pensent que nous sommes peut-être sur le déclin.
Ce n'est pas impossible dans la mesure où, malheureusement, les chefs d'État ne prennent pas les mesures nécessaires pour devenir efficaces. Et en particulier pour construire une Europe fédérale qui était déjà à l'origine de ce que voulaient les pères fondateurs. Et petit à petit, par manque de courage, en voyant que le nationalisme, le populisme, le séparatisme gagnaient du terrain, les hommes d'État et les hommes d'État, il n'y en a plus, mais les chefs d'État et d'une façon générale les hommes politiques n'osent plus en parler, n'osent plus prendre des positions fermes et fortes en faveur de ce fédéralisme. Et ce fédéralisme, je considère qu'il est indispensable parce qu'il faut qu'on soit capable de forger les outils qui sont nécessaires. Or, on ne pourra pas faire cette mutation à 28, parce qu'il n'y a pas une Europe, il y en a trois. L'Europe de ceux qui veulent avancer, qui veulent aller vers le fédéralisme. Il y a l'Europe des Anglo-Saxons et des pays nordiques qui ne sont là que pour s'occuper du marché unique, profiter du marché unique, qui veulent continuer à avoir une politique intergouvernementale en Europe, avec un droit de veto, j'y vais pas, l'euro, non, ça m'intéresse pas, donc je reste dehors, etc., etc. Et puis vous avez l'Europe de l'Est, ce sont des pays qui quand même ont tellement subi le pouvoir et la puissance de l'URSS que tout ce qui est trop intégré par rapport à leur nation, ça les révulse. Et vous voyez qu'aujourd'hui, que ce soit la Hongrie ou que ce soit la Pologne, ce sont deux pays qui ont été très contents de nous rejoindre, mais qui ne veulent pas s'intégrer dans une Europe trop forte.
Quelle est la solution alors? C'est de créer une Europe tripartite?
Voilà, non. Alors la solution, c'est ce que j'appelle l'Europe des cercles concentriques. Ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai fait un article dans Le Monde en 1983 sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on garde l'Europe à 28, ou à 27 si les Anglais veulent sortir, on garde l'Europe à 28, on continue à participer à cette Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais à l'intérieur de cette Europe, le couple franco-allemand prend l'initiative de faire une espèce d'appel d'offres fédéral, donc de créer à l'intérieur des 28 un groupe de nations qui pourra être de 6, de 7, de 8, je ne sais pas, et qui, eux, veulent vraiment avancer. Et il faudra recomposer les choses de façon à ce que les Anglais, par exemple, ne puissent pas mettre un droit de veto à ce que nous voulons faire. Autrement dit, c'est une Europe à trois étages, le couple franco-allemand, ceux qui sont partisans d'avancer et ceux qui sont partisans de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui.
Est-ce que l'Europe recule?
Aujourd'hui, oui. Par rapport à l'ensemble du monde, elle recule. Elle recule, par exemple, même en démographie. Il faut savoir que nous sommes dans une explosion démographique et que la seule zone du monde qui n'avance pas sur le plan démographique et qui va un petit peu même diminuer, c'est l'Europe. La France aujourd'hui, ça représente 0,7% de la population mondiale. Vous croyez qu'on peut encore imaginer être seul et se recroqueviller sur notre nation comme au 19e siècle? Le monde a changé, c'est pas possible.
L'Europe, oui, mais pas comme elle est actuellement.
Exactement.